Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous sommes dans le studio en direct avec Xiao Mei, qui vient de publier aux éditions du Cherche Midi l'extraordinaire destin d'une petite chinoise, chronique du parcours mouvementé d'une petite fille déracinée avec en toile de fond la révolution de 1949 et les drames de l'histoire de la Chine au XXe siècle. Alors Xiao Mei, vous citez en exergue du récit de votre vie un texte de Paul Claudel qui dit combien il a aimé la Chine. Alors est-ce que c'est important pour vous ce regard d'un Français amoureux de la Chine, pour commencer ?
Oui, c'est très important parce que mon père aussi était Français, mon père adoptif, et il avait ce même regard vers la Chine qui n'était pourtant pas son pays d'origine.
Très bien. Alors, comment cette aventure d'écriture a-t-elle commencé ?
Elle a commencé d'une façon tout à fait curieuse parce que j'étais à l'époque dans la mode. Je faisais de l'importation de soie et de cachemire de Chine. Et le journaliste François Hougel du groupe Hersant s'est intéressé à moi. Et à la suite de plusieurs articles qui m'ont pas mal aidée, je dois dire, il a écrit un livre qui s'appelait « Le Havre du Monde », qui est toujours en librairie, et m'a demandé d'incarner la Chine, ce que j'ai accepté évidemment. À la suite de ce chapitre, qui était très bien écrit dans « Le Havre du Monde », avec photo à l'appui, ses collègues lui ont demandé « Mais pourquoi tu ne vas pas plus loin ? Il y a tant de choses à dire. » Et à la suite de ça, François et moi sommes devenus évidemment de grands amis et il m'a dit « On pourrait se lancer dans l'aventure. » Malheureusement, on a commencé ensemble, mais il a été débordé par ses activités de journaliste. Donc j'ai continué toute seule.
Oui, et finalement, c'est peut-être aussi bien d'aller avoir fait seul ce livre.
Oui, c'est aussi bien. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais besoin d'être rassurée et je ne me sentais pas capable de le faire toute seule. Mais finalement, au fil des jours, je me suis rendue compte que le ressenti, personne d'autre que moi pouvait le communiquer.
Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ?
Il m'a fallu 3 ans. Ça peut paraître long et c'est aussi court à la fois parce que il m'a fallu quand même remonter toutes les archives du ministère des Affaires étrangères dont appartenait mon père adoptif Joseph Siguret, consul général de France en Chine. Et je remercie d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères de m'avoir beaucoup aidé.
Oui, parce qu'effectivement, sans les archives, vous étiez un petit peu dans le flou. Alors, vous décrivez dans ce livre non seulement votre vie en Chine, puis en France, mais à propos d'archives, vous remontez jusqu'à vos grands-parents à Nanning en 1925. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas en 1925 ?
Eh bien, en 1925, c'était la jonction entre les deux mondes de la Chine, enfin, si je puis dire, la grande brisure. Parce que à Nanning, mon grand-père était un important banquier. Et il incarnait vraiment ce que l'on peut dire la Chine d'autrefois, avec les concubines, les domestiques, les maisons avec les cours intérieures, les nourrices pour chaque enfant. Ma mère est la 12e fille de la première femme de mon grand-père. Et oui, c'était un lettré, c'était un intellectuel, tout ce qui a été réfuté plus tard. Et en fait, c'est la guerre sino-japonaise qui a mis fin à tout ça.
Alors justement, à quoi ressemblait la vie dans les années 30 dans la maison d'une riche famille à Nanning ? Donc c'est en Chine du Sud. Vous avez un chapitre extrêmement intéressant là-dessus.
Oui, eh bien la vie à Nanning. Nanning se trouve à côté de la province du Guangzhou, du Guangdong exactement, puisque Guangzhou en est la capitale, ex-canton. Et Nanning est une province très commerçante. Mon grand-père, outre d'être banquier, avait de nombreux commerces. Et c'est vrai, nous baignions dans l'opulence à cette époque-là, opulence que je n'ai pas connue. Et il avait une femme principale, c'était un mariage arrangé. Mais ce genre de mariage arrangé se terminait toujours très bien finalement parce que respect mutuel, le même milieu, etc. Et c'était cette femme principale qui dirigeait toute la maisonnée, y compris les concubines, puisque c'est elle-même qui choisissait les concubines de son mari.
Ah oui, ça j'avoue que ça m'a énormément étonnée parce que non seulement elle a choisi sa concubine, mais elle l'a achetée cette concubine.
Oui, elle l'a acheté et avec beaucoup de précautions, elle a beaucoup étudié la question avant parce qu'elle désirait rester maître du jeu et il fallait que la concubine soit belle, mais pas trop, pas plus qu'elle. Il fallait qu'elle soit intelligente, mais pas suffisamment pour la déranger. En fait, la concubine était là pour le plaisir du maître.
C'est vrai que c'est une époque un peu inimaginable. Alors comment vos parents se sont-ils rencontrés ?
Mes parents se sont rencontrés, eux, dans des conditions tout à fait modernes, puisque à ce moment-là, les Japonais avaient occupé la Chine, ma mère naturelle avait perdu son père, le banquier, qui a été tué sauvagement sous les yeux de sa femme, parce que les Japonais s'attaquaient toujours aux gens riches en premier, de manière à pouvoir s'emparer des biens et des maisons pour y loger leur garnison. Et ma mère, malgré tout cela, est partie faire ses études à Guilin, qui se trouve au sud de la Chine, qui est un endroit magnifique, et qui est une des plus grandes universités de littérature de la Chine. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père, que je n'ai jamais connu, qui était éditeur à Guilin.
Alors justement, ce couple va être, entre 1941 et 1948, pris dans la tourmente de violence qui déferle sur la Chine.
Oui, violence effroyable. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à essayer d'empaqueter les 2-3 biens qu'ils avaient, de courir à un autre endroit où on espérait à l'abri des Japonais. Et ensuite, à peine arrivés, il fallait repartir avec encore moins de biens. À la fin, ils n'avaient plus rien et presque plus rien à manger. Donc, ça s'est terminé à Tianjin, au nord, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient plus rien à manger. Ils sont allés chez les parents de mon père naturel.
Alors, vous rappelez que dans le Shanghai des concessions des années 40, on pouvait lire à l'entrée des jardins publics ou de certains cafés, interdit aux Chinois et aux chiens. Alors, cela rappelle aux Européens de mauvais souvenirs. Et donc, vos parents ont connu cette période.
Oui, mes parents ont connu cette période, qui a été une période que la Chine n'oubliera jamais. Je le sens encore aujourd'hui lorsque j'y vais, parce que c'est une période d'humiliation. Aujourd'hui, on peut considérer que les Chinois ont une certaine arrogance, j'en conviens, mais on peut aussi l'expliquer par les humiliations passées.
Alors, en 1949, le sort s'acharne sur votre famille avec le naufrage du Taiping. Vous pouvez nous en dire plus sur ce Taiping ?
Oui, alors c'est vraiment le plus grand naufrage de la Chine au XXe siècle. Et je cherche d'ailleurs à rentrer en relation avec John Woo, le cinéaste, qui vient de sortir un film sur le naufrage du Taiping. Et je suis allée sur son site internet, il a eu un parcours un petit peu identique au mien. Donc le naufrage du Taiping, c'était ce bateau qui faisait la navette entre Shanghai et Taipei, enfin Keelung exactement, le port de Taïwan, pour évacuer toutes les personnes qui étaient contre le régime, soit de par leur fortune, soit parce qu'elles étaient intellectuelles, et c'était très mal vu d'être intellectuelle à l'époque. vers Taïwan, la terre qui était dite promise. Et le Kuomintang avait chargé ce bateau de lingots d'or, de tous les trésors de la Chine. Et ça a dû contribuer à faire couler le bateau, effectivement. Mais également, comme ce bateau avait fait plusieurs fois la navette, on peut admirer au musée de Taipei les merveilles de la Chine ancienne qui ont été emportées par Chiang Kai-shek vers la Chine de Taipei.
Oui, c'est un moment sacrément important pour l'histoire de la Chine et donc du coup pour vous aussi, puisque votre père va périr dans le naufrage. Alors voilà, votre mère veuve a 30 ans, elle est journaliste et j'imagine que c'est parce qu'elle est journaliste qu'elle peut fuir à Taïwan.
Oui, c'est surtout parce que mon père lui a pris ses billets et que on a la chance dans la famille d'avoir toujours un banquier. Le frère aîné de ma sœur, de ma mère, excusez-moi, qui était banquier à la banque de Taipei et qui va donc recevoir ma mère enceinte et le garçon. Mais il demeure une tristesse en moi à ce sujet de ce départ. Il a fallu faire un choix entre mon frère et ma sœur parce qu'il n'y avait que deux billets. Donc on a choisi le garçon.
Ah oui, et donc du coup, votre sœur n'est pas venue.
Ma sœur n'est pas venue, elle est restée en arrière à Tianjin. Et la suite est là pour prouver qu'elle a beaucoup, beaucoup souffert et payé pour tous ceux qui étaient partis.
Oui, c'est ça. Du coup, il y avait les deux Chines et votre famille. Résumez un peu les deux Chines. Alors, votre naissance à Taipei est, dites-vous, le pire moment de la vie de votre mère. C'est un petit peu terrible.
Oui, c'est ce qu'elle a écrit. Alors, je lui en ai beaucoup voulu. Et puis maintenant, à l'âge aidant, étant grand-mère moi-même, je réussis à passer au-dessus de tout ça. Mais ayant enfanté moi-même, je me demande comment on peut dire des choses pareilles et encore plus les écrire.
C'est peut-être aussi une question de contexte politique qu'on a du mal à juger. Alors, elle est journaliste, on l'a dit, et c'est parce qu'elle est journaliste qu'elle rencontrera justement Joseph Siguret, le consul général de France en Asie, qui vous adoptera. C'est un peu une espèce de hasard.
Oui, un hasard, oui. Parce que Joseph Siguret, en fait, a rencontré mes parents, mes deux vrais parents, lorsqu'il était consul général de France à Tianjin. Et il a sympathisé avec mon père naturel, qui était un écrivain et un lettré. Et Joseph Siguret était, bien que français, un intellectuel chinois. Il a écrit même en chinois des livres qui font encore référence aujourd'hui. Et il s'est attaché à cette famille. Donc lorsque ma mère est allée chercher Joseph Siguret à l'aéroport de Taipei, il l'a salué, il lui a demandé « Comment va votre mari ?» Et c'est là qu'elle lui a dit « Il est mort ».
Et c'est là que les choses ont commencé à s'engranger. Alors, c'est en 1953, votre vie change du tout au tout, puisque votre mère, finalement, vous cède à un étranger. Ça paraît déjà un petit peu hallucinant, parce que, bon, elle ne le connaît pas plus que ça. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré, voilà, un ami, disons. Elle cède sa petite fille à ce monsieur, qui avait sûrement l'air très sympathique et gentil. Et donc, du coup, vous partez avec lui en 1953. Et alors là, d'une enfance chinoise, je dirais, extrêmement difficile, vous passez à une enfance choyée de petite fille gâtée.
Ah oui, oui, ça a été un basculement complet. Et d'ailleurs, je pense que la vie que j'ai eue après devait être tellement magnifique que j'en ai oublié la première. J'ai même écrit mon adoption ou ma véritable naissance.
Ou renaissance en tout cas. Alors, à Paris, vous allez à l'école alsacienne, ce qui n'était déjà pas donné à tout le monde. Et puis, donc, vous commencez à apprendre le français. Vous êtes une petite fille. Vous aviez quel âge, là?
J'avais 4 ans.
Voilà, vous étiez vraiment une toute petite fille. Alors, chinois, français, et hop, vous partez ensuite en Rhodésie.
Oui, voilà. Je commençais à m'adapter un petit peu au français. Heureusement, l'école alsacienne était une école mondialiste avant l'heure. Et ça m'a beaucoup aidée dans mon insertion à Paris. Mais 2 ans après, mon père m'a annoncé, nous sommes mutés en Rhodésie. Et j'ai fondu en larmes.
Bah oui, c'est sûr qu'une petite fille qui quittait ses nouvelles amies, etc., c'était pas évident, apprendre une nouvelle langue. Donc vous êtes devenue un peu une. Vous avez suivi vos parents. Votre mère adoptive d'ailleurs est harpiste, elle vous apprend à jouer de la harpe. Et puis bon, une enfance et une adolescence se déroulent. En 1976, vous retrouvez Elisabeth, votre sœur dont on a parlé tout à l'heure, mais elle a vécu une extraordinaire histoire.
Oui, au prime abord, on peut imaginer que c'est elle qui a le plus souffert. C'est ce que j'ai longtemps pensé. Et finalement, je pense aujourd'hui que c'est mon frère qui a le plus souffert. Mais je vais vous expliquer, ma sœur Elisabeth était très très douée intellectuellement, issue d'une famille d'intellectuels. De plus, elle était restée en arrière, sans ses parents. Et elle était considérée comme chinoise noire, entre guillemets,
C'est-à-dire à bannir.
à bannir, c'est-à-dire que l'on opposait les Chinois noirs aux Chinois rouges. Et ma sœur Elisabeth, bien que excellente dans ses cours à l'école, s'est vue refuser l'entrée des études pour la punir d'être fille d'intellectuelle. Ensuite, il a fallu qu'elle subisse toutes sortes d'humiliations, défiler dans les rues, on lui crachait au visage, on lui jetait des pierres. Elle a ensuite beaucoup souffert de la faim et à un moment donné, elle a été envoyée en camp de redressement à Ürümqi, qui se trouve à la frontière de la Mongolie intérieure et du Kazakhstan. Et bon, ça a été à la fois un malheur et un bonheur pour elle parce que c'est dans le train qui la conduisait vers Ürümqi qu'elle a rencontré un homme merveilleux qui lui souffrait beaucoup parce qu'il était né de père chinois et de mère japonaise.
Ça,
Donc,
c'est terrible à cette
ah,
époque-là.
c'était terrible, il était considéré comme l'ennemi de chaque côté.
Traître.
Et tous les gens dans ce train pleuraient, pleuraient. Et ma sœur, qui a un grand cœur et une voix magnifique, a dit, on ne peut pas laisser ce malheur et on va chanter. Donc elle a chanté tout le long des 6 jours qu'a duré le voyage.
Alors, son mari était accordéoniste, il me semble, hein, musicien.
Voilà, il était accordéoniste. C'était pas son métier, mais il aimait ça et il en jouait très bien.
Alors, en fait, en 2 ans aux États-Unis, elle construit une véritable success story.
Absolument. C'est une fille extraordinaire. Et ce que je trouve encore plus merveilleux chez ma sœur, c'est qu'elle ne se plaint jamais.
C'est un petit peu la caractéristique de ce livre, d'ailleurs. Les personnages traversent des aventures terribles et personne n'a l'air de se plaindre, vous non plus d'ailleurs. On a évoqué votre frère tout à l'heure, vous le montrez dans une photographie, il est en train de pleurer quand vous partez.
Oui, parce que c'était terrible pour lui. Il avait perdu sa sœur à Tianjin. Elle avait 4 ans. Comme quoi le chiffre 4.
Oui.
Ensuite, il a perdu son père dans le naufrage du Taiping. Et c'était terrible parce qu'il avait préparé le repas du Nouvel An chinois, parce que mon père est mort la veille du Nouvel An chinois. Donc les plats étaient préparés, la table du Nouvel An était dressée. Et ensuite, il m'a perdu à 4 ans.
Donc double traumatisme, mais finalement Jack s'en est bien sorti.
Il s'en est bien sorti sur le plan business, mais je pense que c'est un être très, très malheureux.
Il est très fragile aussi. Alors, comment vous avez navigué entre vos deux cultures françaises et chinoises depuis tout ce temps?
Eh bien, avec beaucoup d'aisance, je dois dire, parce que mon père adoptif était aussi chinois que n'importe quel chinois alors qu'il était français. Je me suis même mis à penser qu'il devait rêver en chinois. Il adorait le chinois, peut-être presque autant, voire plus que le français. Il était lettré dans les deux langues, puisqu'il était licencié ès lettres françaises.
Donc finalement, c'est grâce à lui que vous avez pu vous en sortir parfaitement bien avec ces deux cultures. Votre livre, en tout cas, c'est une leçon d'espoir.
Oui, je l'espère. Ça veut dire que même au fond du trou, au fond de la misère la plus insupportable intellectuellement, physiquement, on peut toujours se dire qu'un jour le soleil brillera et que le bout du chemin, on va le voir.
Eh bien, Xiao Mei, merci justement pour cette leçon d'espoir dont on a bien besoin. Je rappelle que vous venez de publier « L'extraordinaire destin d'une petite chinoise » aux éditions du Cherche Midi. Je signale par ailleurs que vous reversez l'intégralité de vos droits à ARTIC, Association de recherche de thérapeutique innovante en cancérologie, à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ça aussi, c'est un témoignage d'espoir. Et vous pouvez retrouver Xiao Mei aujourd'hui, mercredi 14 décembre à 15h30, pour une rencontre signature, la librairie Tirlois, au 62 rue Escarmoise à Lille. Un téléphone pour se renseigner, c'est le 03 20 55 37 09.